Le métier de professeur, tout le monde le connaît. Notre propre parcours d'enfant, puis celui de nos enfants sont jalonnés de profs, tels des repères dans le temps, mais aussi des repères dans l'accès aux multiples savoirs dont ils sont les garants. Le professeur exerce un métier qu'il a choisi, il l'exerce avec rigueur et compétence, mais avant de se fondre dans l'entité enseignement, les profs sont des femmes et des hommes formidables, des bâtisseurs aux multiples facettes. Je suis Christophe Salomé, professeur des écoles depuis une trentaine d'années, et depuis 15 ans, je me promène d'école en école en tant que maître remplaçant. Je découvre régulièrement des personnes qui ont des choses à raconter, des personnes qui font, des personnes qui ne sont pas juste des enseignants, des profs, etc. Dans ce podcast, je leur donne la parole. Qu'est-ce qui leur a donné le désir d'enseigner? Quelles sont leurs valeurs, leurs passions, leurs attentes? Qu'ont-ils envie de partager?
Prof, etc.
Armand Altaï est née à Alep, en Syrie. Elle arrive à Marseille à la fin de la guerre. Alors qu'elle n'est encore qu'adolescente, elle découvre le chant grégorien au pensionnat où elle s'occupe d'enfants en difficulté. Elle ne s'arrêtera plus jamais de chanter. Son parcours initiatique commence par les beaux-arts, puis elle se forme au chant, à l'opéra et au conservatoire de Marseille. C'est dans les années 70 qu'elle monte à Paris et participe à de nombreux spectacles. Je ne vais pas faire l'inventaire de ses collaborations, car ce serait bien trop long, mais dans les années 80, elle se consacre entièrement à la musique et au chant et sort 3 albums solo. En 1982, elle joue et chante aux côtés de Jacques Higelin dans son spectacle au Cirque d'hiver « Jacques, Joseph, Victor, Dor ». Elle se produit également au Bain-Douche, au Palace et aux Folies Pigalle. C'est en 2001 que le grand public découvre Armande à la télévision sur TF1. Elle est le professeur de chant de la Star Academy et elle enseigne les techniques de respiration, de diction et de chant. Lors de la saison 8, c'est en qualité de directrice du château qu'elle rejoint à nouveau ce programme. Devant une forte demande, elle ouvre en 2002 une classe de chant et depuis, elle dispense son enseignement à de nombreux élèves au centre de danse du Marais à Paris. Aujourd'hui, Armande se partage entre ses cours de chant et de théâtre, la composition et l'enregistrement de chansons pour un prochain album. Elle dispense également des masterclass à Paris et en province. Elle revient aussi aux arts graphiques et elle travaille à l'illustration d'un livre pour enfants. C'est une prof hyperactive que je reçois aujourd'hui. Armande Altaï, bonjour.
Bonjour.
Quel est le dernier air que vous avez fredonné aujourd'hui ou hier?
Oh là, quel est le dernier? J'ai tellement de musique dans la tête. Je pense que c'est surtout une ambiance. Je passais à un jeune chanteur américain qui s'appelle Suburban.
Ok.
Voilà, il a 20 ans et j'aime bien ce genre de musique, un peu baroque, un peu psyché, un peu barré.
Quelque chose qui vous colle bien, quoi. Quel regard portez-vous sur votre enfance, Armande?
Ah, l'enfance, c'est difficile d'en guérir. Des fois, il y a des choses qui reviennent, qui font mal. Mais je suis attendrie quand même et je m'aimais pas. J'avais peur de pas être à la hauteur. Peut-être qu'on m'aimait pas assez, on m'écoutait pas assez. C'est-à-dire que tous mes frères et sœurs étaient très doués, très vivants. Moi, j'étais un petit peu tranquille. Et ma mère aussi, et mon père aussi. J'étais tous des personnages très flamboyants. Mmh. Et moi, j'étais un peu discrète et lente et rêveuse, voilà. Mais je suis attendrie par cette petite fille et je la trouve mieux que ce que, à l'époque, je pensais de moi.
Mmh. Prof, etc.
Quel est votre meilleur souvenir en tant qu'élève?
En tant qu'élève, moi?
Oui.
Je ne saurais pas dire. Mon meilleur souvenir, il y en a tellement plein. Je pense qu'au conservatoire, c'était bien quand même. Mmh. Le chant, le classique, c'était bien. J'avais un prof de chant qui était gentil, une petite dame ronde avec un petit chapeau noir, et qui a su me voir, qui a su m'entendre. Voilà, elle a longtemps hésité entre mezzo, soprano, et finalement, c'était soprano dramatique. Voilà, mmh. C'était super. Il y avait une ambiance très romanesque. En plus, le lieu est très beau. C'est le même lieu que les Beaux-Arts, où j'ai eu aussi des professeurs, notamment le professeur François Boucher pour la gravure et la sculpture et le dessin antique. Et voilà, c'était le palais, un palais qui est en haut du boulevard Garibaldi, qui est très romanesque, très joli, fait par Palais des Arts, ça s'appelle, fait par Espérant Dieu, à l'époque de Napoléon III. Et c'est très, c'était un très beau, très bel endroit. J'y suis retournée quelques fois. C'est, oui. Voilà, c'est très beau.
Alors, pour les auditeurs qui ne connaissent pas forcément, on parle bien sûr de Marseille.
De Marseille, bien ouais. sûr.
Vous avez été quel genre d'adolescente ?
Alors, j'avais une adolescence, c'était le pensionnat, les habits sombres, chanter à l'église du chant grégorien, et puis après, moi-même, je me suis occupée d'enfants plus ou moins handicapés parce que la religieuse qui s'occupait de nous, nous avait, ma sœur et moi, formés comme éducatrices. Donc, on a travaillé. Je pensais même, à un moment donné, prendre le voile.
Ah oui.
Et je me suis occupée d'enfants, même d'enfants qui avaient la mucoviscidose. Et c'était terrible parce qu'on savait qu'on ne les reverrait plus. On allait faire des stages dans un endroit qui s'appelle la Bonne Jeanne, près d'Aubagne, où il y avait ces gens, ces enfants, plus ou moins abandonnés. Il n'y avait pas beaucoup de téléphone et c'était assez terrifiant. Mais le chant, déjà, quand on les faisait chanter, c'était extraordinaire parce qu'il y avait des enfants qui bégayaient, qui ne parlaient pas. Et au moment du chant, un miracle se passait. Et voilà, les gens chantaient à tue-tête, les enfants chantaient à tue-tête, ils étaient heureux. C'était... Le chant, c'est une thérapie extraordinaire.
C'est vrai. En quoi cette période de l'adolescence a influencé le choix du métier de femme de spectacle que vous exercez, que vous avez exercé et que vous exercez encore aujourd'hui ?
Eh bien, en fait, c'est le hasard parce que je voulais être peintre et je peignais, je faisais des tableaux, je faisais des restaurations de tableaux, de meubles anciens. Et puis, comme mes frères et sœurs chantaient, on jouait tous aussi d'un instrument. De temps en temps, je faisais un petit cabaret. Je me suis mis à gagner de l'argent très vite, très facilement. J'ai fait des concours de chant qui m'ont rapporté. Donc, j'ai dit, bon, ben voilà, ça va être ça immédiatement pour avoir les moyens de vivre, quoi. Voilà. Et puis, ça ne s'est pas arrêté.
Oui, bien sûr. Et comment vos parents ont reçu ce goût pour le spectacle ? J'imagine qu'avec un papa militaire, ce n'était pas gagné d'avance.
Le père était absent. Le papa n'était pas un papa, c'était quelqu'un de terrifiant, qui avait beaucoup de... Je sais pas, c'est une sorte de héros par l'extérieur. Il montait à cheval, il peignait, il était maître d'armes, maître nageur, il chantait de l'opéra. Mais c'était un homme très, très violent, très difficile. Une de mes sœurs a été une grosse victime de lui. Voilà.
D'accord.
Donc, c'est... il est parti, il nous a abandonnés aussi. Donc, c'était une maman plutôt, et une maman aussi, c'était pas n'importe qui, c'était une femme qui avait beaucoup de personnalité, qui était très séduisante, très dirigiste. Mais bon, elle a accepté.
Oui.
Elle a accepté que je fasse tout ce que j'ai fait. Voilà. La seule fois que j'ai vu mon père, que j'allais aux Beaux-Arts, et j'étais encore habillée en pensionnaire, il m'a dit « Où tu vas ?» Je lui ai dit ben, « Je vais prendre mes cours de peinture et de dessin. » Il m'a dit « Non, je t'interdis. » J'ai claqué la porte, je suis partie quand même. Je ne savais pas ce qui m'attendait au retour, mais je l'ai fait quand même.
Oui. Régulièrement, je repense avec nostalgie à tous les monstres de la chanson française, de Trenet à Brel, en passant par Aznavour, Brassens ou Barbara. Mais il y en a un qui me manque particulièrement, c'est Jacques Higelin. Alors, vous qui l'avez connu, vous pouvez nous en parler un petit peu ?
Ah ben, Jacques, il est parti un peu tôt, c'est vrai. Cette maladie bizarre, c'est on est tous, on ne sait pas en fait. Mais Jacques, c'est vrai qu'il avait un côté, je ne sais pas, un mélange de Gérard Philippe, du mime Marceau. Et il avait quelque chose de très français, même s'il chantait un peu un blues, mais blues louisianais quand même. Voilà, il avait un style. C'est vrai, c'était un personnage attachant.
Oui, c'est vrai, c'est important de souligner cette dimension à la fois fantasque, poétique et
française.
Oui, française, très française, c'est vrai.
C'est un héros français.
Prof, etc.
Et que retenez-vous de l'expérience Starac et est-ce que vous avez gardé des contacts avec les élèves des saisons auxquelles vous avez participé ?
Ah, la Starac, c'est une expérience extraordinaire parce que c'est la première fois en France qu'on parlait des cours. Les chanteurs français disaient, ne vous voulez pas prendre de cours aussi, ils les prenaient parce que beaucoup venaient déjà chez moi. C'était pour surtout pas en parler. Il fallait que ce soit secret, il fallait pas que. Voilà, il fallait que ça ait l'air naturel, le talent était naturel. Oui. Et ils ont découvert, la France a découvert le travail, les exercices. Ils ont découvert, à travers tous ces jeunes chanteurs, qu'on pouvait changer les choses et se cultiver soi-même. Et c'est une passion incroyable parce qu'on a rendez-vous avec soi-même et on se transforme juste avec le travail. Et ça a été extraordinaire d'ailleurs. On était 3-4 professeurs et ils se sont tous mis à pulluler. Tous les chœurs se sont remplis, c'était magnifique.
Oui.
Et enfin, les gens entendaient de la musique, parce qu'on est quand même le pays où nous avons plein de stars, où nous avions, parce que ça change un peu en ce moment, qui chantaient faux, et un public qui tapait pas en place dans ses mains, et ça a changé tout ça, la star.
c'est
extraordinaire. Et puis, moi, j'avais beaucoup d'admiration pour ces candidats qui étaient très courageux, qui amenaient tous leurs rêves en. Alors, comme ils jetaient tous leurs chevaux dans la bataille, ils ne prenaient pas ça comme un jeu, ils prenaient ça comme un destin. Et quand ils partaient, ça c'était un crève-cœur chaque fois.
Oui.
Mais il y a des surprises. Beaucoup ont travaillé, ont fait leur vie, on fait des dîners, on se retrouve, on parle. Voilà, certains travaillent toujours.
D'accord.
Voilà, c'est une très belle expérience.
Alors aujourd'hui, vous enseignez toujours le chant chaque semaine à de nombreux élèves.
Oui.
Vous m'avez dit que votre méthode était très différente de ce qui existait habituellement dans les écoles de chant. En quoi votre méthode diffère-t-elle des autres ?
C'est-à-dire que quand on a joué Godspell, une comédie musicale américaine, parce que j'ai fait des opéras au Festival d'Avignon avec des grands messieurs comme Wilson, tout ça, la musique contemporaine, qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Je sais pas, il y en a tellement, Shakespeare, enfin voilà, en tant que comédienne. J'ai fait une comédie musicale qui s'appelait Godspell, qui a remplacé R à la Porte Saint-Martin. C'était des Américains, et il fallait être, et dedans il y avait des inconnus comme Daniel Auteuil, Dev. On a tous commencé très jeunes, il fallait être chanteur, danseur et comédien. Et ils nous ont fait faire des exercices incroyables, et je donnais déjà des cours de chant même à l'époque, un peu classiques comme ceux que j'avais. Et puis j'ai développé toute une technique à base de méditation, à base de un peu eux. Et puis aussi, c'était les années 70, on faisait des exercices avec des Tibétains, des choses comme ça. Et ça m'a énormément inspirée pour apprendre. De toute façon, comme quand j'étais éducatrice ou cheftaine, j'adore m'occuper des gens, j'adore voir. Libérer les gens qui sont prisonniers et voir leur potentiel. Et il suffit qu'on leur donne un petit peu d'amour et d'attention, puis c'est des fleurs qui se mettent à éclore d'une manière extraordinaire. L'handicap, à la limite, je le mets de côté.
Oui.
On a tous plein d'handicaps, mais ce qui m'intéresse, c'est le potentiel. Donc voilà, j'ai une technique qui fait que d'abord, je m'intéresse à la planète ou à la fleur qui vient vers moi.
Oui.
Voilà. Et je me suis retrouvée avec des diamants, des gens formidables.
En 2007, vous êtes passé à l'écriture en publiant votre autobiographie, Cette musique qui me vient de loin. Est-ce qu'on peut dire que votre vie, c'est avant tout l'occasion de vous exprimer?
Ça m'a permis de dire, parce que je m'exprime dans mes chansons, je m'exprime en permanence, mais ça m'a permis de dire qui j'étais, d'où je venais, parce qu'on racontait tellement de trucs bizarres vis-à-vis de moi. Alors, je suis née à Alep parce que mon père était dans l'armée française, j'étais officier à ce moment-là, et que pendant la guerre, parce que je suis née en 44, je suis une vieille dame, l'armée française était dans les comptoirs français ou dans les colonies françaises. Donc, j'ai une sœur qui est née à Beyrouth, une autre en Turquie, et une autre à Alep avec moi, une autre à Damas. Et puis mon frère est né à Bouaké, en Afrique noire, parce que voilà, on a été jusque là-bas. Et donc, notre enfance s'est passée dans des trains, dans des avions militaires, à dos de chameau même. On se déplaçait tout le temps, voilà. Et quand la guerre d'Indochine est arrivée, nous sommes revenus sur Marseille, mon père est parti donc au Vietnam et nous on s'est retrouvés dans une ville qui nous a accueillis, où on a fabriqué des copains, on a fait des surprises parties, voilà, c'était super. Et Marseille est une ville extraordinaire.
Avec la crise sanitaire, notre vie sociale a été radicalement bouleversée. J'imagine que pour vous, c'est également votre vie professionnelle qui s'est vue complètement transformée. Comment avez-vous vécu ces périodes?
Très en colère. Très en colère parce que Paris a été complètement fermé, vidé. Nous, enfermés aussi. Dehors, c'était des policiers. J'ai jamais vu des policiers comme ça, avec des mitrailleuses et le doigt sur la gâchette. C'est pas possible, ça. De l'armée partout. Je sentais, j'ai un très mauvais feeling. J'ai pas cru du tout à tout ça. J'ai senti que c'était quelque chose de pas normal. Et sans parler du fait que les artistes, ça a été une catastrophe. Tous les projets sont tombés, voilà.
C'est vrai.
Donc j'ai une énorme, énorme colère. Voilà.
Lorsqu'on vous observe, je trouve que vous incarnez à la fois l'image de la femme française, élégante et raffinée, et une certaine excentricité, peut-être un peu plus britannique. D'où vient ce mélange? D'où vient ce look tout à fait singulier?
Alors je dirais que c'est pas un look, je dirais que c'est une personnalité. C'est vrai qu'en France, on est très coincé sur la chatoyance extérieure. Et pourtant, on est le pays de la mode. Mais voilà, et on n'est malheureusement pas très rock'n'roll. On est très comme il faut. Et c'est dommage. Et on est aussi très sur la mignonnite aiguë. Les chanteurs, les chanteuses surtout, doivent être mignonnes. Si possible, très college girl. Ça fait qu'on se retrouve avec des femmes de 55 ans qui continuent à chanter comme des petites filles.
Oui, c'est vrai.
J'aime pas du tout ça. Et c'est vrai que j'ai fait mes deux premiers disques en Angleterre et que j'ai beaucoup plus d'affinités. J'écoute cette musique, d'ailleurs, enfin, anglo-saxonne beaucoup plus. J'écoute aussi des Français, mais j'adorais tout. Les Gréco, les Brel, les Brassens, les Ferré, tout ça, toute cette époque-là, j'adorais. Mais après, beaucoup moins. Et je retrouvais cet esprit à Londres ou à Manchester, où j'ai été faire le deuxième disque, avec Martin Hannett, qui avait fait New Order, ou qui avait fait, enfin oui, plein de groupes comme ça, Magazine, avec Howard Devoto. Enfin, c'était l'Hacienda et tout ce mouvement de musique. Donc, j'étais là-bas, j'ai eu toutes sortes de musiciens extraordinaires. Dans le premier, j'avais Andy Clark, quand même, qui était le clavier de Bowie, qui a fait Ashes to Ashes. Voilà. Et des Barry Adamson, des grands musiciens. J'ai eu cette chance, à un moment donné, d'avoir fait de beaux disques avec une production anglaise. Et ça a marché. J'étais très heureuse. J'étais dans mes éléments. Et là-bas, les gens sont colorés, voilà. Il y avait des chevelures incroyables, une manière de s'habiller tellement géniale. Et là, on est revenu à Paris. Paris, c'est le conformisme. Ou alors, c'est des faux punks qui viennent avec des vestes punk de marque.
Oui, c'est ça.
Prof, etc.
Quel regard portez-vous aujourd'hui sur les émissions qui ont succédé à la Starac et en particulier sur le programme The Voice ?
Alors, The Voice, je trouve extraordinaire parce qu'on s'aperçoit qu'on a des voix et des chanteurs formidables maintenant. Bon, les coachs, c'est pas toujours. ils jugent des gens tellement supérieurs. Mais bon, il y en a qui sont formidables. Aussi qui sont naturels, il y en a qui font leur numéro, il y en a qui t'apportent pas bonheur, parce que c'est pas simple d'être coach. On tombe de son piédestal, les gens vous voient avec vos petits travers, c'est pas facile. Non. Je trouve que Florent Pagny est formidable parce qu'il est très naturel, et puis on sent qu'il aime bien la chanson, il en parle d'une manière très décontractée, lui-même a beaucoup travaillé sa voix, donc il pourrait être un très, très bon professeur de chant. Voilà. J'aime beaucoup Mika, parce que Mika, il a un goût pour la musique moderne, contemporaine. Il est passionné aussi par les gens. Je trouve ça bien. Il a du style. Je ne vais pas parler de tous. Hein.
Non.
Mais j'ai trouvé aussi que Jennifer s'en sortait très bien, parce que c'était déjà une élève très travailleuse, très bosseuse, très intéressée par la technique. Même si elle a son petit côté enfantin, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de jugeote. Au contraire, elle en a beaucoup. Et voilà, et je l'ai trouvé très bien aussi. Donc, c'est passionnant. Je trouve ça passionnant. Mais quand je regarde les Américaines ou les Anglaises, on choisit vraiment des très grandes voix, tandis que ici, on se débarrasse un peu des voix. On choisit des personnalités un peu. On voit si elles sont adaptables à cette fameuse variété française. Mais bon, même dans la variété française, ça a tellement évolué que maintenant, il y a des choses très, très, très bien et de super chanteurs.
Vous travaillez actuellement sur l'illustration d'un album pour enfants. Vous pouvez nous parler de ce projet ?
Oui. Où on va attendre un peu, parce qu'il faut que je trouve le temps de le finir. J'ai fait des dessins, mais les dessins ne suffisent pas. Je suis en train d'apprendre à me servir d'une tablette.
D'accord.
Avec mon vieux cerveau.
Ah, c'est intéressant. Vous dessinez sur tablette, donc ?
Pas encore. Ah. J'ai tous mes dessins de fait, mais maintenant, je vais m'adapter à la tablette pour que là, ça soit imprimé d'une belle façon. Voilà.
Et c'est vous qui écrivez le texte également ?
Non, c'est une amie qui a beaucoup de talent et qui est écrivain.
Bon, ben, on a hâte de découvrir ça. Surtout, moi, en tant qu'enseignant, ben, je suis très avide de littérature de jeunesse, donc je ne manquerai pas de découvrir ça.
Sinon, qu'est-ce que je pourrais vous signaler qui est marrant ? Bonjour, Tina, ça va ? Oupoun ? Voilà, un petit chat qui rentre à la maison.
Ah, d'accord.
le premier week-end de juillet, je suis à Carcassonne pour un petit festival de cinéma et j'ai été filmée pendant 50 heures à peu près par la petite fille de Bernadette Lafont qui s'appelle Anna Medvieski.
Oui.
Et voilà, et son film réduit, bien sûr, va passer à Carcassonne dans ce week-end-là. Voilà. J'espère que ça va faire quelque chose. Ah, on verra bien.
Bon.
Le 1er, le 2 et le 3 juillet.
Ah, très bien, vous faites bien.
Le 1er, le 2 et le 3 juillet à Carcassonne.
Bon. Eh bien, c'est noté dans nos agendas, en tout cas.
Oui. Et quand, si ça vous intéresse, quand ce petit conte de fées, c'est pas un conte de fées, mais c'est un conte, oui, sortira, je vous le signalerai, je vous enverrai un SMS.
Ah, merci beaucoup. Quand est-ce que vous avez ri aux larmes pour la dernière fois, Armande, et pour quelle raison?
Oh, je me souviens pas, mais c'est vraiment des private jokes.
Ah,
je
oui.
Je dis que ma petite fille dise quelque chose qui est tellement dans son caractère, où je ris beaucoup de moi aussi parce que je suis je panique, je me trompe dans les mots, voilà, et ça me fait rire. C'est les choses attachantes qui me font rire,
oui,
aux larmes, des petites choses, des petits travers personnels comme ça.
Oui. Pouvez-vous me citer un moment préféré de votre journée, qu'il soit professionnel ou plus personnel?
Alors, le moment préféré, c'est quand je suis avec ma fille, ma petite fille. Quand j'arrive, comme aujourd'hui,
oui,
et que je m'installe dans le salon et qu'on commence à papoter. C'est délicieux, c'est le rêve, voilà.
C'est le plaisir ultime.
Oui.
Quelle valeur a aujourd'hui le plus de sens pour vous?
Le courage.
Ouais.
La générosité, parce que tout le monde est lâche et cupide.
Vous pensez ça de notre époque?
C'est notre époque est détruite par ça.
Ouais.
Et c'est pas fini. Le pire peut arriver d'un moment à l'autre. Tout ce qu'on aurait imaginé, que ce soit Aldous Huxley ou Orwell, tout ça, c'est pas vrai. Si, et c'est là. Voilà. Mais personne ne le voit ou ne veut pas le voir.
Ouais. Quelle compétence ou capacité qui vous rend bien des services dans votre vie vous rend un peu fière?
L'obstination.
Ouais.
Je suis obstinée et je suis un peu un perfectionniste angoissé, mais c'est aussi mes deux défauts.
Ouais, comme quoi un défaut peut rendre service parfois.
Oui, je suis les deux. Je suis, pour des tas de gens, c'est un défaut.
Prof, etc.
Si vous pouviez vous mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, vivant ou mort, pour une journée seulement, vous choisiriez qui?
Oh, ça, il y en a un paquet. Hein. Peut-être David Bowie.
Ouais. Ouais, ça doit être intéressant, pour le moins. Vu le nombre de vies différentes qu'il a eues, il faudrait dire oui. David Bowie, mais à quelle époque? Comment définissez-vous le succès?
Oh, on est obligé d'avoir du succès pour pouvoir continuer à faire ce qu'on aime.
Ouais.
Parce qu'il y a cette histoire d'argent. C'est dommage. On devrait pouvoir vivre un minimum avec de l'argent sans le gagner et pouvoir faire ce qu'on veut. Mais le succès, c'est quelque chose qui a un double tranchant parce que les gens vous aiment mais ils vous le font payer cher si vous n'êtes pas exactement comme dans leur fantasme.
Oui.
Et en même temps, le succès, c'est beau de partager, de rentrer en scène et de partager avec plein de gens. Mais c'est étrange parce que vous avez des personnes qui ont tout, qui sont très belles, qui ont beaucoup de talent et qui ne sont pas aimées. On ne peut pas obliger les gens à vous aimer. Et d'autres qui ont un petit quelque chose qui, heureusement, échappe à tout, qui a une petite troublance, un truc, et voilà, ça marche. Heureusement.
Oui, c'est vrai.
C'est compliqué à définir le succès.
Oui. On arrive à la fin de cette interview, mais j'ai une dernière question à vous poser. Qu'est-ce que vous vous souhaitez pour les deux prochaines années?
Pour les deux prochaines années?
Oui.
Oh là là! Trouver une forme de paix, mais je pense que non, ça ne sera pas. Ça va être la guerre. Et puis accepter aussi, je ne sais pas si je les vivrai jusqu'au bout. Donc, parce que j'arrive à un moment où on ne sait pas. Je souhaiterais surtout que toutes les corruptions, et une grosse partie en tout cas, apparaissent au grand jour et qu'une chance existe pour les jeunes. Une chance.
Oui.
Mais j'ai très peur de tout ce qui se prépare et notamment du climat. Voilà.
On va essayer de garder cet espoir alors, d'un avenir pour la jeunesse.
Oui.
Merci beaucoup Armande d'avoir accepté mon invitation et merci pour vos réponses à mes questions qui sont parfois difficiles. Merci sincèrement à vous.
Merci Christophe. Et puis à bientôt.
Oui, j'indiquerai en description de cet épisode les références de vos albums que l'on peut découvrir ou redécouvrir.
Oui.
Si vous avez aimé cet épisode, vous, auditeurs, n'hésitez pas à vous abonner à Prof, etc. sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous avez envie de m'aider, vous pouvez m'offrir des étoiles, 5 de préférence, sur l'application.
D'accord.
Oui, merci Armande. Sur l'application podcast depuis un iPhone ou un iPad, ou sur iTunes depuis un ordinateur. Vous pouvez également y laisser un commentaire.
D'accord.
Et si vous avez envie de partager votre côté, etc., comme Armande, eh bien écrivez-moi sur Twitter ou sur la page Facebook de Prof, etc. À vendredi.
Au revoir.